Paso doble.
Paso doble.
Lundi, livre.
Bonjour Andrea De Carlo.
Bonjour.
C'est l'automne, quelque part dans le Var, et c'est l'histoire de deux destins qui vont se rencontrer. Nick, une rockstar venue de son Angleterre natale festoyer un troisième mariage, et Milena, une jeune Italienne qui crée et réalise des glaces exceptionnelles. C'est le dernier roman de mon invité ce matin, Andrea De Carlo, traduit de l'italien par Chantal Moiroux aux éditions Hervé Chopin. Alors, La merveille imparfaite, c'est le titre du roman, mais c'est aussi le nom de la boutique de Milena, la jeune glacière du village. Est-ce que vous avez rencontré une boutique, un glacier avec un nom pareil, Andrea De Carlo?
Je n'ai rencontré aucune, mais après la sortie du roman, plusieurs des créateurs de glace, femmes et hommes, m'ont voulu rencontrer pour me dire qu'ils partageaient ma vision, ma philosophie concernant le glace.
Ah oui, parce que vous consacrez quelques belles pages aux glaces, on va en parler, mais d'abord, la merveille imparfaite. Comment vous avez eu cette idée? Oui, parce que c'est très bizarre comme nom.
Parce que je pensais au glace, c'est une merveille, c'est un cadeau que nous pouvons nous faire, mais ça ne dure pas, c'est seulement question de quelques minutes.
C'est éphémère donc.
C'est éphémère. Alors pour moi c'était un symbole de la merveille plus grande, de la vie qui aussi ne dure pas.
Alors pourquoi avoir choisi déjà ce cadre, la France? Pourquoi les deux protagonistes sont étrangers dans cette partie de l'arrière-pays varois?
Parce que j'ai voulu trouver un cadre neutral. Il est anglais, elle est italienne, mais ni l'un ni l'autre sont chez eux. Et alors ça, je voulais créer une sorte de déplacement pour les deux. Et aussi, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup le sud de la France. Et je pensais qu'ils pouvaient avoir des raisons pour que les deux seraient là. Elle, parce que c'est un lieu touristique, au moins d'été, alors c'est un coin où elle pouvait vendre ses glaces. Et lui, parce qu'il aime beaucoup le vol à voile. Et alors là, dans le canton de Fayence, il y a un aérodrome, un des plus grands d'Europe. Et alors c'est peut-être deux différentes raisons pour qu'ils sont là au même temps, dans le même lieu.
Alors c'est un roman d'été parce que l'action de votre roman, Andrea De Carlo, est concentrée en 3 jours. Et pourtant c'est pas l'été, vous avez choisi plutôt l'automne, l'arrivée de l'automne. Alors pourquoi? Peut-être parce que cela renvoie au rocker, c'est-à-dire à Nick, le fait qu'il est en train de rentrer dans l'automne de sa vie. Et puis pour Milena, c'est encore plus compliqué, c'est une saison compliquée pour elle, c'est la fin de l'été, il faut vendre des glaces.
Oui, pour une créatrice de glaces, c'est un moment très difficile parce que c'est la saison, c'est fini. Et alors on peut recommencer le printemps, mais oublier les glaces pour l'automne et pour l'hiver. Mais elle est convaincue que l'automne et l'hiver offrent des arômes merveilleux, des matières pour faire des glaces extraordinaires. Et alors, elle est une artiste, elle est vraiment rigoureuse sur sa mission de faire les plus merveilleux glaces qu'elle peut faire. Et alors, elle refuse de considérer la saison de glace finie. Et pour lui, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Ça correspond à une phase de sa vie où il n'est pas jeune du tout. Il fasse un troisième mariage. Et naturellement, il y a beaucoup de doutes sur ça. Il n'est pas vraiment convaincu de le faire, mais il est poussé par la vie dans cette direction.
Alors, tous les deux vont se poser des questions d'ordre existentiel. Tous les deux, ils vont se poser aussi la question de comment avancer. Pour Milena, qui est jeune, la question est encore plus ardue. Mais Nick va aussi s'exprimer à travers quelques passages sur qu'est-ce qu'il va pouvoir encore créer et quelle est sa capacité à se laisser porter par les passions de la vie. Et puis, ils vont se rencontrer, ça c'est l'objet même de votre roman, Andrea De Carlo. S'il fallait parler des deux personnages, comment définiriez-vous Nick, pour commencer ?
C'est un peu un paradoxe. Dans le commencement, je crois que c'est la première page de son chapitre, il dit que toute sa vie est un paradoxe parce qu'il gagne beaucoup d'argent, mais plus il est riche, moins il est libre de faire ce qu'il veut vraiment faire. Et aussi, il a le paradoxe d'un chanteur rock qui a créé des chansons, des révoltes, des rébellions contre le système. Mais maintenant, il est part de ce système. Il est un homme riche avec beaucoup de propriétés, des investissements, mais il récite la part des rebelles sur la scène. Mais comme il est intelligent et un peu cynique aussi, il est très...
Oui, mais justement, dans le roman, quand on le prend, dans ces trois jours où vous allez décrire ces deux personnages avant qu'ils ne se rencontrent, ce cynisme, il lui pèse, il n'a plus envie d'être cynique.
Oui, il n'a plus envie, c'est ça. Comme Milena n'est pas cynique du tout, elle est très sincère, très ouverte. Ça est toujours dangereux. Elle est consciente de se poser dans plusieurs des situations dangereuses. Mais elle a décidé d'être comme ça, de dire ce qu'elle pense. Et alors, quand la rencontre entre les deux, pour moi, était intéressante, parce qu'il est l'artiste réalisé, consacré, il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner, et il a tous ses fans, l'admiration. Mais elle est la vraie artiste. Elle fait des glaces, pas des sculptures, mais avec un esprit d'artiste. Et alors, il reconnaît ça. Quand les deux se rencontrent, il voit qu'elle est plus pure qu'il est. Je voulais créer une situation la plus improbable, une rencontre le plus improbable possible.
On ne va pas raconter quand même à la fin de cette histoire, Andrea Di Carlo, mais s'il fallait faire un portrait de vous en creux, vous qui êtes écrivain italien, vous êtes très connu, très populaire, vous avez même travaillé pour les plus grands metteurs en scène italiens, vous avez travaillé même avec Fellini, je crois.
Oui. Je me rappelle d'être venu à Paris avec Fellini. Il cherchait ses acteurs pour le film qu'il était en train de préparer, c'était « Il vogue les navires ».
Oh, j'aime beaucoup ce film. Alors, s'il fallait faire, à partir de vos deux personnages, de votre dernier roman, un portrait de vous, alors qu'est-ce que vous avez de Milena et qu'est-ce que vous avez de Nick ?
Bon, Milena, elle est très déracinée. Elle n'a pas une arrière-pays à quel se référer. Mais elle est toujours un voyage. Elle cherche. Elle ne sait pas exactement quoi, mais elle est dans une continue recherche.
Comme vous ?
Je crois, oui. Je ne veux jamais m'asseoir dans un rôle, dans le rôle de l'écrivain. Je trouve qu'il y a toujours des choses beaucoup plus intéressantes au dehors de sa profession. Il y a toujours des gens qui ont des histoires à raconter.
Pourquoi vous dites ça ? Parce que vous avez écrit à l'ombre des grands metteurs en scène qui prenaient tout, comme Fellini ?
Oui, Fellini, c'était un très bon exemple. Il était très modeste, personnellement. Il n'était pas un monument vivant, comme on pouvait s'imaginer. Mais il était curieux de tout, de toute profession, de tout type des personnes...
Non, mais ils prenaient toute la lumière et vous faisiez quoi? Comment vous avez vécu cette période où vous étiez, où vous travailliez pour les plus grands, mais tout en restant dans l'ombre?
Oui, c'était pas facile parce que Fellini, surtout, était un grand vampire aussi. Il s'est nourrissé du sang de gens qui travaillaient avec lui. C'était absolument nécessaire de se défendre.
Avec Antonioni, puisque vous avez travaillé aussi avec Antonioni, c'était la même chose?
Non, c'était... Antonioni, c'était l'opposé de Fellini. Il était très réservé, il parlait très peu. Les histoires qu'il racontait étaient toujours très, très ambiguës, très difficiles à déchiffrer.
Mais qu'est-ce que vous faisiez avec eux, justement? Vous les aidiez à écrire des histoires? Vous veniez avec des histoires?
Avec Fellini, je travaillais avec lui du début du travail sur ce film-là. Alors, à la recherche des acteurs, c'est pour ça que je suis venu à Paris avec lui, parce qu'il cherchait des acteurs, mais au dehors des habituelles routes, des agences, tout ça, dans la rue, dans les restaurants. Quand il était très inconventionnel. Mais aussi, il s'occupait de chaque détail de le film. Et c'est une chose que je crois personne ne fait aujourd'hui. Mais des coutumes, les détails des maquillages des acteurs. Et il changeait le scénario. Même quand il tournait le film, chaque jour il changeait.
Mais vous étiez avec lui pour réécrire?
Pour écrire. Alors il me disait, il faut que tu écrives quelque chose sur les couleurs. Il avait une duchesse qui n'est pas, elle était aveugle. Alors il dit, la perception des couleurs par une personne qui est aveugle. Alors il faut que tu me décris sa imagination de la mer. Alors, j'ai fait une recherche sur les couleurs, sur les noms. Il voulait qu'il semblait un peu un poème. Il utilisait une petite partie de ce que j'avais fait. Mais là, seulement travailler avec lui était si... C'est une inspiration. C'était comme chaque jour était un cadeau.
Et Antonioni, vous faisiez quoi avec lui? C'était de l'écriture?
Oui, une écriture. Il voulait faire un contenu de blow-up, mais situé à Milan, dans le monde de la mode. Mais on a commencé à écrire et après quelques semaines, il est tombé malade. Après ça, il n'a pas recouvert complètement.
Alors ça, c'est votre côté milléna, hein, c'est-à-dire travailler, artisan, répondre à des demandes de grands metteurs en scène. Alors, qu'est-ce que vous avez de Nick?
Mais de Nick, j'ai l'expérience d'avoir eu succès avec ma profession comme écrivain, comme romancier, et alors d'avoir des fans, des personnes qui me suivent depuis des dizaines d'années. Mais surtout, c'est la question c'est relationné avec l'expectation des gens qui lisent mes livres. Et dans un côté, il veut retrouver ce qu'il connaît déjà, mais au même temps, il veut être surpris par quelque chose de nouveau. Et la seule façon d'adresser le problème, c'est de faire exclusivement ce que je veux faire, sans considérer ce que... d'autres gens expectent, désirent de moi.
Et pourtant, Andrea de Carlo, chacun de vos livres se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Vous êtes un des rares dans ce pays, d'ailleurs, à vendre autant de livres. Ça vous pousse à vous poser la question qui taraude votre personnage, cet ancien rocker, Nick. Est-ce que je travaille pour les autres? Est-ce que je travaille pour moi? Est-ce que je prends des risques? Est-ce que ma vie a du sens?
Chaque fois que je commence un nouveau roman, je me dis, il faut prendre des risques. Il faut pas écrire le dernier roman encore, une nouvelle fois. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le faire et je ne le fais pas. Ce roman est très différent des précédents.
La merveille imparfaite, c'est le titre de votre roman. C'est aussi le nom du magasin de glace tenu par votre héroïne, Milena. Et il y a quelques pages où vous parlez des glaces. C'est quoi une bonne glace? C'est quoi les saveurs qu'il faut retrouver dans ces glaces? Et là, pour le coup, vous êtes pour une glace artisanale, vous.
Oui, absolument, absolument. Je déteste les glaces industrielles, les standardisées, les saveurs. Je crois que le glace peut être la plus standardisée des expériences. On peut goûter un glace et c'est exactement le glace qu'on a goûté la semaine arrière. Ou il peut vous donner une surprise. S'il y a cet esprit dans le créateur de la glace, alors il peut vous donner des sensations d'une saison même, d'un moment. Et cet moment ne peut pas être replié. C'est seulement cet moment-là.
Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Italie, ça reste quand même le pays des glaces?
Oui, il y a beaucoup de bons glaces en Italie, il faut le dire.
Alors, par exemple, voilà ce que vous écrivez à propos des glaces. C'est une saveur profondément familière et pourtant si difficile à décrire avec des mots. Crémeuse ne suffit pas. Douce ne la définit pas. Tendre, moelleuse, essentielle, blanche, neigeuse, homogène, oui, elle vous recouvre la langue, l'enveloppe, se dissout, ne reste pas. Il n'y a rien de prévisible dans la fleur de lait. Son apparente simplicité ouvre un univers de nuances douces et veloutées qui caressent la langue et le palais, apportent avec elle le rappel des pensées ingénues, des impressions fraîches, des expériences tactiles et olfactives innocentes. S'il existe une glace qui dément le préjugé selon lequel les glaces ont une saison, c'est bien la crème de lait. Du coup, on a envie de prendre cette glace.
Oui, j'aime beaucoup le glace. C'est écrire La Merveille Imparfaite, c'était la chance de écrire des deux passions que j'ai toujours une, c'est la glace. L'autre, c'est la musique rock. J'ai toujours aimé le rock. Je joue la guitare avec des amis. Nous jouons du blues, du rock. Et alors, c'était vraiment une bonne opportunité de le mettre ensemble. Ces deux passions incompatibles, apparemment.
Bon, on vous en veut pas de ne pas nous avoir ramené une glace italienne. C'est très dur à en transporter, Andrea Di Carlo. Mais vous nous avez ramené un album pour parler de votre deuxième passion. Un album du rock, légendaire, classique, comme vous voulez. Mais en tout cas, il s'agit d'un prix Nobel de littérature.
Oui, c'est Bob Dylan. Et la chanson, c'est Absolutely Sweet Mary.
Et pourquoi vous avez choisi cette chanson?
C'est une chanson qui raconte une histoire. L'histoire est mystérieuse. Mais c'est pour ça que c'est fascinante. Now the railroad gate, I just can't jump it. Sometimes it gets so hard for me, see. And a captain, they're beating on his trumpet. He now has got the you left for me. But where are you tonight, sweet Marie?
Et on termine donc avec votre choix, Bob Dylan. Merci, Andrea Di Carlo. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage disponible en France et traduit donc de l'italien par Chantal Moiroux. La merveille imparfaite, c'est édité chez Hervé Chopin. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup. Even though I had some